Sans surprise, je vais vous emmener dans l'épître de Paul aux Romains. Et on va continuer au chapitre 2, à partir du verset 17. Romains 2, on va lire les versets 17 à 29. Donc la fin du chapitre 2. Mais toi qui portes le nom de Juif, tu t'appuies sur la loi. Tu mets ta fierté dans ton Dieu. Tu connais sa volonté et la loi t'a enseigné à choisir ce qui est bien. Tu crois être un guide pour les aveugles, une lumière pour ceux qui sont dans l'obscurité. Tu crois être un éducateur pour les ignorants et un maître pour les enfants, parce que tu es sûr d'avoir dans la loi l'expression parfaite de la connaissance de la vérité. Eh bien, mais toi qui fais la leçon aux autres, pourquoi ne la fais-tu pas à toi-même? Toi qui prêches qu'on ne doit pas voler, pourquoi voles-tu? Toi qui interdis l'adultère, pourquoi en commets-tu? Toi qui détestes les idoles, pourquoi pilles-tu leur temple? Hein, tu es fier de la loi, mais tu déshonores Dieu en faisant le contraire de ce qu'ordonne la loi. En effet, l'Écriture affirme « À cause de vous, les autres peuples se moquent de Dieu ». Si tu obéis à la loi, la circoncision t'est utile. Mais si tu transgresses la loi, c'est comme si tu n'étais pas circoncis. Si celui qui n'est pas circoncis obéit au commandement de la loi, Dieu ne le considérerait-il pas comme s'il était circoncis? Celui qui n'est pas circoncis dans sa chair, mais qui obéit à la loi de Dieu, te jugera, toi. Toi qui transgresses la loi, bien que tu possèdes la loi écrite et que tu sois circoncis. En effet, le vrai juif n'est pas celui qu'il est en apparence, qui est circoncis de façon visible dans sa chair. Mais le vrai juif, c'est celui qui l'est intérieurement, qui est circoncis dans son cœur, d'une circoncision qui dépend de l'Esprit de Dieu et non de la loi écrite. Ce vrai juif reçoit sa louange non des humains, mais de Dieu. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Nous poursuivons notre lecture de l'épître de Paul aux Romains. On est dans son développement. Dimanche dernier, Paul rassemblait un peu tous les non-croyants dans une espèce de forme d'hypocrisie un peu générale. Il soulignait que nous reprochons aux autres les mêmes comportements et les mêmes paroles et les mêmes pensées que nous trouvons en nous. La loi intérieure que tout un chacun se construit, nous l'appliquons volontiers aux autres. Mais cette loi-là, si on l'appliquerait à nous-mêmes, elle nous condamnerait. Si nous devions être jugés par cette loi, nous serions coupables. Alors aujourd'hui, Paul se penche sur le cas des Juifs, qui pour lui possèdent l'expression la plus haute de la loi divine. Paul ne s'intéresse pas aux humains qui s'inventeraient une loi pour eux-mêmes, mais à des croyants qui reçoivent une loi de Dieu en main propre. Vous le savez, derrière la question de la loi se trouve une autre question, celle du chemin qui mène à la vie éternelle, à la vie réelle. Quelle est la bonne façon de vivre? Où se trouve la vérité? Qui apporte la lumière, etc. Presque une vieille question de philosophie antique. Alors d'où vient le droit chemin? Comment trouverai-je la voie juste où poser mes pas? Est-ce à moi de tracer la route? Est-ce qu'il existe une carte à suivre? Ou devrait-on trouver un guide pour nous conduire? Paul a déjà exclu l'idée de se faire son propre chemin. Une voie qui mène la plupart du temps à l'hypocrisie où nous appliquons aux autres notre loi sans nous l'appliquer à nous-mêmes. Aujourd'hui, Paul se penche sur l'option de la carte au trésor. Est-ce qu'on peut suivre un plan qui nous mène à Dieu ? Peut-on rencontrer Dieu, trouver le bon chemin si on a le bon manuel, les bonnes indications ? Pour les Juifs de l'époque de Paul, leur identité, leur existence se fonde sur cette réalité : Israël a reçu la loi divine. Car les Juifs sont fiers de leur loi, la Torah. Elle est le socle de leur identité. Ainsi Paul écrit, « Toi qui portes le nom de Juif, tu t'appuies sur la loi, tu mets ta fierté dans Dieu, tu connais sa volonté et la loi t'a enseigné à choisir ce qui est bien. Alors tu te prends pour un guide pour les aveugles, tu crois que tu es la lumière dans l'obscurité, un éducateur pour les ignorants, un maître pour les enfants. » Il dit que le juif croyant a de plus que les autres qui n'invente pas son idée de la volonté de Dieu. Il la connaît parce qu'elle lui a été confiée par Dieu lui-même. Et cela le rend fier, pardi. Mais il ne faut pas confondre la fierté avec l'orgueil, ni la réjouissance avec l'arrogance, ni le partage avec l'élitisme. Israël, du fait qu'il possédait la loi divine, a pris le rôle d'un guide, de lumière, d'un éducateur et d'un maître. Or, était-ce réellement le but de la loi divine ? Qu'est-ce que cherchait Dieu en confiant à Israël sa loi ? Pour cela, j'invite ceux qui le veulent à ouvrir vos Bibles dans le Deutéronome au chapitre 4. Deutéronome. Chapitre 4, les versets 4 à 8. Et Moïse parle ainsi. Deutéronome 4, 4 à 8. Vous le savez, je vous ai enseigné des décrets et des règles comme le Seigneur mon Dieu me l'a ordonné. Vous les mettrez en pratique dès que vous serez dans le pays dont vous allez prendre possession. Si vous les mettez soigneusement en pratique, les autres peuples qui auront connaissance de ces lois vous considéreront comme sage, intelligent. On dira de vous, mais quelle sagesse, mais quelle intelligence il y a dans ce peuple. En effet, existe-t-il un peuple, parmi les plus grands, qui ait des dieux aussi proches de lui que le Seigneur notre Dieu l'est pour nous chaque fois que nous l'appelons à l'aide ? Existe-t-il un autre peuple, même parmi les plus grands, qui possèdent des décrets et des règles aussi justes que ceux contenus dans l'enseignement que je vous présente aujourd'hui. Il n'est nulle part question d'enseigner les autres peuples, ni même de les guider. Israël devait donner envie, rendre désireuses les autres nations d'avoir un Dieu comme l'Éternel. Voilà pourquoi Paul écrit dans la suite. « Eh bien, toi qui fais la leçon aux autres, pourquoi ne la fais-tu pas à toi-même ? Toi qui prêches de ne pas voler, toi qui prêches de ne pas commettre d'adultère, toi qui détestes les idoles. » Il dit « Tu es fier de la loi, mais tu déshonores Dieu en faisant le contraire de ce qu'ordonne la loi. En effet, l'Écriture affirme à cause de vous, les autres peuples se moquent de Dieu. » D'après Paul, loin de désirer rencontrer l'Éternel, les nations raillent le Dieu d'Israël à cause du comportement hypocrite des Juifs de l'époque de Paul. Car, dit-il, ils ne s'appliquent pas les leçons qu'ils veulent donner aux nations. Sont-ils réellement fiers de Dieu ou sont-ils fiers d'avoir été choisis par Dieu ? Pourtant, pour Paul, ils déshonorent ce Dieu. Alors l'apôtre va confronter ces Juifs aux autres peuples. Le signe physique de la vocation, de la mise à part de Israël, c'est la circoncision. Tous les hommes israélites étaient circoncis dès la naissance. Ce signe exprimait la mission de engendrer une nation sacrée pour Dieu. Le pénis, l'organe reproducteur mâle, était consacré à produire une descendance sainte. La loi, transmise dès l'enfance et vécue communautairement, accomplissait la sanctification du peuple juif. Mais que devenait le sens de la circoncision si la loi n'était plus vécue au sein du peuple, ou si elle n'était plus transmise aux enfants? Elle devenait un signe vide, voire pire, une condamnation pour celui qui était circoncis. Dieu regardera-t-il la circoncision si celle-ci est un signe vide, ou bien regardera-t-il à l'obéissance, que celle-ci vienne d'un circoncis ou d'un incirconcis? Paul écrit: si tu obéis à la loi, la circoncision t'est utile. Si tu transgresses la loi, c'est comme si tu n'étais pas circoncis. Et si celui qui n'est pas circoncis obéit au commandement de la loi, Dieu ne le considérerait-il pas comme s'il était circoncis? C'est alors que Paul renverse l'ordre des choses. L'arroseur est arrosé, ou plutôt, celui qui juge avec arrogance se retrouve jugé par celui-là même qu'il condamnait. Ainsi Paul écrit: celui qui n'est pas circoncis dans sa chair, mais qui obéit, te jugera, toi qui transgresses la loi. Bien que tu possèdes la loi écrite, et bien que tu sois circoncis. Pour l'ancien pharisien, pour l'érudit de la Torah qui était Paul, qui a passé sa vie à chercher comment obéir toujours plus à la loi, et qui a poursuivi les hérétiques chrétiens pour les faire périr et protéger son culte, sa foi juive, avant de se convertir, il a tout mis à la poubelle pour établir une nouvelle voie, ou plutôt pour révéler la véritable voie telle que Dieu la lui a montrée, la circoncision du cœur. C'est la circoncision du cœur qu'il faut. Et ce n'est pas une chose nouvelle. Ce n'est pas une nouvelle idée qui est rentrée dans le peuple de Dieu à partir de Jésus. Moïse écrivait dans le Deutéronome. Il écrivait ceci: « Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel, ton Dieu, s'est attaché pour les aimer. Et après eux, à leur postérité, c'est-à-dire à vous qu'il a choisi, d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Alors, vous circoncirez votre cœur et vous ne roidirez plus votre cou. » Ou Jérémie, qui dit: circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda, habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. La circoncision du cœur. Alors que Paul écrit ces lignes aux Romains, l'âge de la loi va disparaître avec la chute du second temple. Désormais, le vrai juif n'a pas à être circoncis dans sa chair, mais dans son cœur. Ces propos, Paul les adressait aux juifs de son époque. Une forte communauté juive habitait à Rome au 1er siècle. On trouve des traces de juifs qui habitaient à Rome dès le 2e siècle avant Jésus-Christ. Et même un quartier complètement juif existait sur les rives droites du Tibre. C'est pour ça que Paul écrivait spécifiquement sur ce sujet à l'église de Rome, sachant que dans cette église, une forte propension de chrétiens d'origine juive se trouvait là-bas. Mais pouvons-nous tirer des enseignements pour nous? Une application pour nous, considérant que cette lettre ne nous est pas directement adressée? Je crois que oui. Je suis sûr que déjà bon nombre d'entre vous ont fait des parallèles dans leur tête entre la relation entre les juifs et les nations et puis les chrétiens envers les nations. Se pourrait-il que parfois, nous autres chrétiens prenions aussi le rôle de donneurs de leçons? Se pourrait-il que parfois, nous condamnions les autres qui n'ont pas notre foi, sans nous-mêmes, ou là où nous-mêmes, nous ne marchons pas droitement à la suite du Seigneur? L'Esprit que Dieu vous a promis lors de votre baptême et que vous avez reçu pour votre salut, fait-il de vous un maître ou un disciple? Une lumière ou le reflet de la lumière? Une lampe ou le chandelier sur lequel brille la flamme. Un trésor ou un vase d'argile dans lequel est placé un trésor. Tout comme nos pères dans la foi, nous sommes enfants d'Abraham. Nous avons reçu par l'Esprit de Dieu une relation vivante avec Jésus qui est le Maître, qui est la lumière venant dans le monde, qui est le chemin, la vérité et la vie. Plus que toute autre chose, c'est notre marche avec le Seigneur, assaisonnée de toutes ses victoires, de ses défaites, de ses hauts, de ses bas, qui témoignent tour à tour de la puissance de Jésus et de sa grâce envers nous. Et c'est cela qui révèle le mieux notre Dieu au monde. Frères et sœurs, l'évangile que nous proclamons, la victoire sur le péché de Jésus, la victoire sur la mort de Jésus, la victoire sur le diable de Jésus, l'espérance dans une justice finale, l'espérance d'un monde nouveau où la paix et la joie seront éternelles, c'est un message pour libérer, pas pour écraser. C'est un message pour relever, pas pour faucher. C'est un message pour pardonner et pas pour condamner. Christ est la vérité. Connaître la vérité, c'est être en relation avec Jésus. Nous avons tous une tentation de nous sentir supérieurs en figurant que nous comprenons mieux le monde que les autres grâce à l'Évangile. Et c'est vrai qu'on le comprend plus lucidement, on le croit. On croit que l'Évangile explique mieux le monde que les autres systèmes, j'ai envie de dire. Mais nous ne sommes pas supérieurs, nous sommes bénis. Nous ne sommes pas supérieurs, nous sommes bénis. Car être supérieur suppose que j'aurai quelques mérites à connaître Jésus. Mais c'est parce qu'il nous a rejoints que nous pouvons le connaître. C'est parce qu'il nous a aimés que nous vivons cette espérance. Que tous les mérites lui reviennent et que toute sa joie soit la nôtre. Que toute la gloire lui revienne et que nous soyons fiers de lui appartenir et de vivre avec lui jour après jour. Oui, cultivons dans notre cœur la fierté d'être aimés de Jésus et pas l'orgueil d'avoir fait le bon choix. Israël a été choisi par Dieu sans que ce peuple possède d'éclat, de culture spécifique ou de grandeur. Et bien des belles choses sont nées de l'amour de Dieu sans condition pour Israël. Mais de l'orgueil en est sorti aussi, si l'on en croit les propos de Paul. Et s'il y a orgueil, c'est qu'on se croit méritant. C'est que l'on se croit choisi pour ses qualités, méritant. Qu'il est difficile pour nous de croire qu'on nous aime vraiment gratuitement. Vraiment gratuitement. Vraiment gratuitement. Que l'on nous aime sans que l'on ait à rendre quelque chose pour mériter cet amour ou pour qu'il dure, pour qu'il ne se lasse pas en face. Et en même temps, quelle joie. Vous êtes aimé tel que vous êtes. C'est là, je le crois fermement, la source la plus puissante qui peut faire jaillir de nos cœurs de la vie, de la joie, de la paix, des bons fruits pour celles et ceux qui nous entourent. Jésus, même pour rien, c'est vraiment gratuit. Alors cultivons une attitude intérieure qui cherchera à exprimer de la fierté. Mais pourquoi tu veux être fier d'être aimé pour rien ? Parce que je suis fier de celui qui m'aime. J'ai rencontré un couple qui ne va pas bien du tout. Et dans ce couple, il y en a un qui est très amoureux de l'autre, mais qui ne se sent pas mériter cet amour en retour. Donc l'autre peut lui dire « je t'aime, je te trouve beau » ou « je te trouve belle » ou « je suis heureux de vivre avec toi ». L'autre n'arrive pas à le croire parce qu'il dit « je ne mérite pas, je ne suis pas à la hauteur ». Et ça plombe tout le couple. Parce que celui qui se sent plus inférieur, moins bien, qui ne se sent pas mérité d'avoir épousé l'autre, il n'accepte pas d'être aimé sans condition. Il veut chercher à être à la hauteur, il veut mériter, il veut faire des efforts, se changer pour. Alors que sa vraie libération et sa vraie transformation viendra du fait qu'il se laisse aimer tel qu'il est. Et qu'il croit dans les paroles de l'autre qui lui dit « je te trouve beau, je te trouve belle ». Qu'il les croit et qu'il s'appuie dessus. Alors on sera plein de fierté, plein de gratitude. Nous chercherons à mener une vie pour honorer Dieu, pas pour nous acquitter de la dette, pas pour payer notre dû, mais pour montrer notre gratitude. Tu m'as choisi et j'y peux rien. Si une telle vie, si c'est une telle vie que Christ veut susciter en nous, non pas une vie de paraître mais d'être. Alors oui, Jésus vous aime. Jésus vous aime et vous avez du prix à ses yeux, quoi qu'il arrive. C'est la vérité la plus profonde de tout l'évangile. Alors on reste, il est vrai qu'on a envie que certaines personnes autour de nous se tournent vers le Seigneur, se convertissent. Et parfois dans nos débats, dans nos argumentations, on leur fera la morale. Et c'est une faute. On voudrait qu'ils connaissent Jésus. On se dit, s'ils le rencontrent, il est sauvé. C'est vrai. Mais ça ne nous autorise pas à les culpabiliser. Souvenons-nous d'où nous sommes venus. Souvenons-nous d'où nous sommes tombés nous-mêmes. Réjouissons-nous de son amour pour nous, de sa grâce et de sa vitalité, mais gardons-nous des jugements hâtifs, sécurisants, qui nous poussent à croire que je suis meilleur que toi parce que j'ai compris. Apportons au nom du Christ de l'écoute, de la compréhension, de la fidélité et des encouragements. Et si l'on nous demande parfois conseil, sachons puiser dans les Écritures saintes des paroles pleines de sagesse et de pertinence. Mais ne résumons pas tout à « faut que tu te convertisses ». Car si quelqu'un ne veut pas tout le salut du Christ, l'Évangile peut le libérer quand même. Tel domaine de sa vie ou tel domaine de sa vie. Comme ces 10 aveugles qui sont venus chercher une guérison auprès de Jésus, ils l'ont tous obtenu. Mais il y en a un qui est venu chercher plus que ça et qui a trouvé le salut. Ne résumons pas tout à la repentance. Car vous savez, la repentance naît de la rencontre avec Jésus. Ce n'est pas la rencontre avec Jésus qui naît de la repentance. Et la rencontre avec Jésus, elle vient de vous. La rencontre avec Jésus, elle va passer par vous. Par une relation avec vous. Parce que non, vous n'êtes pas des maîtres, pas plus que moi. Nous ne sommes pas la lumière du monde, nous ne sommes pas la vérité. Nous ne sommes pas le trésor, mais nous portons le trésor. Et nous avons reçu en nous l'esprit de vérité. Et nous voulons que la gloire de Christ se reflète sur nous. Alors oui, la rencontre avec le Christ va passer par nous. Et vous, qui porterez le fruit de l'Esprit Saint, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, vous allez bénir autour de vous. Toutes ces graines sont déjà plantées en vous, bien-aimés du Seigneur. Il les a déposées avec abondance. Vous connaissez l'abondance du semeur. il sème n'importe où, dans les chemins, dans les épines, dans les ronces, sur, puis aussi sur la bonne terre. Donc s'il vous donne des graines de ce fruit de l'Esprit, il vous les donnera en abondance. Alors vraiment que l'Esprit Saint irrigue vos cœurs, que ce fleuve d'eau de vie qui coule de Christ, de la croix, vous rende riche et fécond pour le Seigneur. Soyez protégés, soyez gardés des jugements à l'emporte-pièce et que votre vie chrétienne puisse être un parfum de bonne odeur qui donne envie de connaître votre Dieu. Amen.